Vous écoutez, on lit pour vous.
Une victoire porteuse d'espoir. Un texte paru dans la revue Paraquat de numéro 164 à l'automne 2024. L'abolition de la pénalité sur les rentes de retraite pour les personnes recevant une rente d'invalidité marque l'aboutissement de 12 ans de démarches intensives dans un dossier complexe. Cette bataille a touché des dizaines de milliers de personnes affectées par une injustice systémique, dépassant largement la mission de Mémo Québec et mobilisant de nombreux acteurs. Pour l'organisme, cette victoire est le fruit d'un investissement immense, un défi de longue haleine, mais aussi un marqueur d'espoir. Au départ, ce dossier a été porté à notre attention par un de nos membres, Jacques Dubois, qui a vu sa rente de retraite être amputée de 30 % du fait qu'il avait reçu une rente d'invalidité entre l'âge de 60 et 65 ans. Depuis 2013, Moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec, a mené des représentations auprès de diverses instances visant à démontrer l'iniquité d'une modification appliquée par Retraite Québec envers les bénéficiaires de la rente d'invalidité, RI, ayant moins de 65 ans et vivant avec une limitation attestée par l'équipe d'évaluation médicale de l'instance gouvernementale après le 1er janvier 1999. La discrimination dénoncée. Pour introduire ce dossier complexe, rappelons que la rente d'invalidité a été instaurée pour assurer un revenu de base aux personnes ayant déjà cotisé au régime et qui, à cause d'incapacités importantes, ne peuvent plus exercer d'emploi rémunéré. C'est dans ce même esprit qu'elle fut implantée à travers le Canada. En 1997, des années après sa création, le gouvernement du Québec a apporté une modification importante à la RI sans équivalent dans le reste du Canada. Cette modification a des répercussions négatives sur les bénéficiaires de la RI et va même à l'encontre des objectifs poursuivis lors de l'instauration de cette dernière. En effet, depuis cette modification, le Québec a appliqué aux bénéficiaires de la RI la même pénalité que celle imposée aux bénéficiaires ayant choisi de prendre une retraite hâtive. Autrement dit, les bénéficiaires de la RI se sont vus imposer une pénalité de 0,5 % par mois où elles ont touché leur rente entre 60 et 65 ans. Ainsi, une personne ayant reçu une rente d'invalidité à partir de l'âge de 60 ans a vu sa rente de retraite diminuer de 30 % à partir de 65 ans. Notons que cette pénalité a augmenté graduellement pour atteindre 38 % à partir de 2018. Et en 2022, une modification à la loi a été apportée diminuant la pénalité à un pourcentage variant entre 18 % et 24 %. Ainsi, Mémo Québec considérait injuste l'application uniforme d'une pénalité à l'ensemble des bénéficiaires, alors qu'il est clairement démontré, tant par leurs conditions d'admission que leur réalité sociale et financière, que leur situation est différente. En effet, alors que les bénéficiaires de la rente de retraite font un choix éclairé de prendre une retraite hâtive, les bénéficiaires de la RI doivent toujours vivre avec une limitation grave et permanente entre 60 et 65 ans. Ils n'ont d'autre choix que de subir cette injuste pénalité, ce qui nous semble démontrer l'inadéquation de la visée d'équité entre les travailleurs soutenus par le gouvernement du Québec pour justifier cette modification. Retour sur l'historique des démarches. Un comité de travail a donc été formé dans le but de mener toutes les démarches nécessaires pour dénoncer cette situation, qui a affecté de manière exponentielle l'ensemble des personnes handicapées de la province au fil des années, toutes limitations confondues. Dans les pages qui suivent, vous pourrez retrouver une rétrospective de l'épopée année par année, ainsi que les témoignages de plusieurs acteurs impliqués dans le dossier depuis le commencement. Nous vous proposons également un bilan de la situation dans lequel nous nous tournons vers l'avenir et réclamons que justice soit rendue pour que les personnes pénalisées reçoivent une juste compensation. La victoire n'est pas totale, mais elle représente un progrès indéniable. Cette avancée démontre comment la détermination, l'acharnement et le travail coordonné des acteurs associatifs et politiques, appuyés par le soutien de la population, peuvent mener à des réussites que l'on croyait impossibles. Mémo Québec espère que cette épopée, marquée par de nombreux moments de découragement, servira d'espoir pour tous ceux et celles qui sont engagés dans la défense des droits des minorités. Même si certains dossiers peuvent apparaître comme étant des causes perdues, la mobilisation et le travail acharné peuvent finalement porter leurs fruits. Quel est le gain exactement? Si le gouvernement respecte l'engagement de son ministre des Finances, Éric Girard, l'abolition de la pénalité sur la rente de retraite qui est prévue pour le 1er janvier 2025 permettra aux personnes de 60 ans et plus, actuellement bénéficiaires de la rente d'invalidité ou qui en ont bénéficié dans le passé, de ne plus subir de réduction sur leur rente de retraite. Cette pénalité varie présentement entre 18 % et 24 % dépendamment des personnes. Dès 65 ans, ces personnes recevront donc la totalité de leur rente, sans diminution. Cette réforme sera automatique et ne nécessitera aucune action de la part des bénéficiaires. C'était une victoire porteuse d'espoir, un texte paru dans la revue Paraquad, numéro 164, à l'automne 2024.
Sarah Limoges a participé à la seconde étape et à la médiatisation du dossier. Un texte d'Aline Vancon-Pernol paru dans le numéro 164 du magazine Paraquad. Sarah Limoges reprend le dossier après le départ de Nicolas Messier. Tout comme pour lui, le sujet de la pénalité discriminatoire au régime de rente du Québec devient rapidement un de ses dossiers principaux en défense collective des droits. Arrivée en poste en 2017, Sarah poursuit la bataille, déjà entamée par son prédécesseur. Il a tout d'abord fallu, à la nouvelle conseillère en défense des droits, un temps pour comprendre cette poutine administrative qu'elle ne connaissait pas du tout. J'ai ensuite discuté avec des membres pénalisés qui avaient reçu la mauvaise surprise à l'âge de 65 ans et qui ne savaient alors pas du tout qu'ils allaient être pénalisés. Certains ont dû vendre leur maison à cause de cette pénalité. Ils étaient mal pris. Nous avons construit le dossier à partir de ça, se souvient Sarah. À l'époque, la baisse représentait 36 % de moins sur leurs revenus. Quand on n'a pas travaillé toute sa vie et qu'on a dû arrêter de cotiser, on n'a déjà pas 100 % des prestations de base, mais quand, en plus de ça, on est pénalisé de 36 %, on ne peut pas vivre du tout. J'étais horrifié. Quand j'ai entendu ça et à l'idée de penser que je pouvais un jour être dans cette situation, déplore Sarah Limoges. Vulgariser le sujet était plus facile. Comme elle n'était pas la première à avoir travaillé sur le dossier, le discours de Mémo QC était déjà bien rodé pour expliquer la pénalité avec des mots simples et plusieurs actions avaient déjà été entamées. Voilà comment Sarah résume la pénalité en quelques phrases. À cause d'une condition médicale, les personnes bénéficiaires de la rente d'invalidité étaient pénalisées au même titre que les gens qui décidaient de prendre une retraite anticipée de leur plein gré. Cela constitue une discrimination à l'égard de la condition de santé de la personne. Vulgariser le sujet, l'expliquer, le rendre moins complexe, moins effrayant pour les membres, c'était le rôle de la conseillère en défense des droits à Mémo QC. Côté judiciaire aussi, le dossier avait déjà bien avancé quand Sarah y est arrivée. Des membres avaient accepté d'aller en justice, dont M. McLean, qui était un élément central, et les avocats chargés du dossier, Maître Laporte et Maître Mongeon, s'étaient alliés. Il y avait alors trois dossiers portés au tribunal administratif du Québec. Sarah soutenait Maître Laporte, l'avocat de Mémo Cussé, dans ses démarches. Le rôle de Sarah Limoges dans le dossier était aussi d'entamer les démarches politiques habituelles auprès du gouvernement et de l'opposition. Le gouvernement libéral a refusé toute discussion. Il n'y avait aucune ouverture pour seulement nous répondre. Les portes étaient closes et fermées à double tour. Ce n'était pas un dossier considéré comme « sexy » pour les politiciens, selon la spécialiste en défense des droits. Un dossier fiscal ne permet pas de s'attirer des votes. Au contraire, du soutien à domicile, l'autre grand dossier de Sarah Mémo Cussé. Le bon coup médiatique. Enfin, bien sûr, il y avait l'aspect médiatique. La spécialiste en défense des droits se souvient de nombreuses communications qu'elle a eues avec les journalistes pour préparer l'entrevue de la facture, l'émission de Radio-Canada qui a largement contribué à médiatiser le dossier et à informer le grand public. C'était vraiment un bon coup. La facture avait décidé de faire une entrevue en profondeur. Ça nous a donné beaucoup de motivation et d'espoir. C'est une émission de grande écoute. Nous étions très contents qu'elle s'intéresse au sujet et permette de le vulgariser. L'émission a aussi permis de faire reconnaître Mémo Cussé comme le porteur du dossier, selon Sarah. Elle se souvient que, malgré les tentatives de l'organisme de recevoir un appui en cognant à plusieurs portes communautaires, le soutien était là, mais pas l'implication. L'aura médiatique du reportage a, de plus, permis à Mémo Cussé de recevoir de nombreux témoignages de personnes qui vivaient le même problème et d'alimenter l'action en justice. Sarah a recensé un certain nombre de personnes pénalisées pour construire l'argumentaire de Mémo Cussé. Quand la conseillère en défense des droits a quitté son poste en septembre 2020, le dossier attendait de passer au tribunal. Elle se souvient que les avocats de l'autre parti demandaient des reports d'audience pour gagner du temps. À mon avis, ils n'avaient rien pour défendre le dossier, donc ils reportaient pour nous décourager. Fière d'avoir contribué. Sarah est aujourd'hui très fière de la victoire et soulagée pour les personnes concernées. Elle est aussi fière d'avoir participé au succès du dossier. Elle a partagé son sentiment à ses collègues travailleuses sociales qui ont suivi le sujet de près. Elles aussi, lors de l'annonce de la victoire. J'ai le sentiment que c'est pour ça que je suis devenue intervenante sociale. C'est une méga victoire. Aujourd'hui, je rêve de parler à Carlos Leitao, le ministre des Finances du Parti libéral de l'époque où je travaillais sur le dossier, et de lui dire « Tiens-toi, on avait raison », s'amuse Sarah. Il n'a jamais accepté de nous rencontrer ou de discuter du dossier, se souvient-elle. Comme à Sarah, qui aurait pu être un jour concernée par la mesure, le dossier était cher à Walter Zelaya, le directeur de l'organisme et son superviseur en défense des droits, avec qui elle s'entretenait presque quotidiennement. Le duo a travaillé en collaboration étroite. C'est un dossier qui a mobilisé beaucoup de temps et qui a causé beaucoup de découragement, car c'était dur de percer le mur des médias, des politiciens et des organismes communautaires, mais finalement, on a réussi en gang à enlever cette pénalité. Ça aura un vrai impact sur la vie des gens au Québec. C'était Sarah Limoges a participé à la seconde étape et à la médiatisation du dossier, un texte d'Aline Vancon-Pernol paru dans le numéro 164 du magazine Paraquad.
Walter Zelaya, le directeur de Mémo Cussé, a vécu 12 années de lutte difficile, un texte de Aline Vancon-Pernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Walter Zelaya, à la tête de Mémo Cussé depuis plus de 20 ans, a été le seul à avoir été témoin du dossier depuis son commencement jusqu'à l'annonce finale de la victoire en mars 2024. Le directeur de l'organisme garde une bonne mémoire de ce dossier qui l'a beaucoup marqué et beaucoup touché, pour lequel il s'est longuement investi, a engagé les membres ainsi que l'équipe de MémoQC au fil des années. Walter a d'abord été marqué par le témoignage des premiers membres de MémoQC venus frapper à sa porte pour lui exposer le sujet. Il se souvient particulièrement de l'histoire de Luc Rouleau, qui lui a raconté les difficultés qu'il vivait et notamment le fait qu'il allait perdre son condo à la mise en place de la pénalité à 65 ans, car il ne pourrait plus payer ses mensualités hypothécaires. Quand je pensais à ce monsieur qui allait perdre son logement à une période de sa vie où il était déjà très vulnérable et qui se demandait ce qu'il allait faire, les larmes ont coulé. C'est vraiment venu me chercher. Ça a été comme un déclic. Je suis encore émue quand j'y pense. À partir de ce moment-là, j'ai pensé et je lui ai dit « On va se battre », raconte Walter, comme si c'était hier. À la recherche d'informations et de soutien. Dans ce dossier complexe et difficile à comprendre, le directeur de MémoQC se souvient qu'au début, nous ne savions même pas à qui nous adresser au gouvernement pour obtenir de l'information. Il se souvient aussi de l'hostilité du ministère des Finances au moment où l'organisme demandait l'accès à certaines informations. En 2013, MémoQC est à la recherche de soutien. Le jeu de ping-pong entre le protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est vécu comme une mauvaise surprise. En gros, ils se sont renvoyés la balle, commente Walter. Le manque de réponse médiatique décourage aussi le comité. Plus le temps passe, plus nous sommes convaincus de notre point, mais nous nous sentons très seuls. Je salue d'ailleurs la persévérance des membres du comité, reprend Walter. La réponse du protecteur du citoyen après la seconde relance abat encore davantage les membres investis. Nous étions choqués. C'est dur quand on lance une bataille et qu'on vit des défaites comme ça, se désole Walter Zelaya. Finalement, c'est l'avis favorable de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui relance l'affaire et le moral. Cet avis nous a donné beaucoup d'espoir. Nous espérions que l'information serait reprise par les médias et qu'il y aurait pu y avoir une pression médiatique après ça. Mais non, la nouvelle est seulement reprise par des médias locaux, s'attriste le directeur de MémoQC. L'intérêt médiatique, le reportage de la facture. Finalement, quand le sujet est repris par la facture de Radio-Canada, Walter est très content du retentissement médiatique du reportage. C'est une émission de grande écoute, une émission respectée, juge-t-il, même si le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Le retentissement de l'émission va au-delà des attentes et le directeur de MémoQC se souvient que l'organisme a fait son possible pour répondre à toutes les demandes d'informations. Nous avons fait notre maximum, mais il était difficile de répondre à tout le monde. Il n'y avait qu'une seule personne en défense des droits à l'époque. C'est en partie la raison pour laquelle il y en a trois maintenant. Du côté de l'Assemblée nationale, quelques appuis politiques se manifestent. Walter cite, ému, le plaidoyer touchant du député du Parti québécois, Guy Leclerc, pour abolir la pénalité. Son fils, Benjamin Leclerc, un sportif reconnu, était devenu quadriplégique, se souvient-il. Les démarches judiciaires. Quand MémoQC porte le dossier en justice, les espoirs sont minces. Les avocats que nous avons consultés en 2013 nous disaient que si nous allions au TAC, nous allions perdre, car il fallait remettre en question la constitutionnalité de la loi. Nous avons hésité. Finalement, d'autres personnes, comme M. McLean, ont déposé un dossier avec un autre avocat, Maître Mongeon. Nous travaillons avec Maître Laporte, qui a fait un excellent travail, explique Walter Zelaya. Enfin, la victoire. Jusque dans les derniers mois, avant l'annonce effective du retrait de la pénalité, il était difficile de croire à la victoire, notamment après la rencontre avec le ministre des Finances du gouvernement de la CAQ, Éric Girard, le 11 septembre 2023, où aucun engagement n'avait été annoncé. Je suis content des connaissances fines, techniques et juridiques que Memo QC a apportées au dossier, mais à la fin de la rencontre, quand je demande au ministre s'il va faire quelque chose, il répond qu'il s'est engagé à écouter. C'est tout, résume Walter. Finalement, à l'annonce du retrait officiel de la pénalité, après toutes ces années de lutte acharnée, Walter Zelaya ne peut que s'estimer heureux et très ému de cette victoire. Il s'est rappelé de toutes les nuits blanches passées à travailler sur le dossier, notamment avec les membres du comité aujourd'hui disparus. C'est la mesure dont le ministre est le plus fier dans ce budget. Si le ministre est sincèrement fier, c'est grâce à toutes les personnes de Memo QC, les membres du conseil d'administration, les employés et aussi plusieurs dizaines de milliers de personnes pour qui il s'agit d'un gain tangible, reprend le directeur de Moelle Épinière et Motricité Québec. Et de conclure, on nous traitait de fous au début, nous n'étions finalement pas si fous que ça. Quand on a la conviction qu'on a raison, la persévérance est le meilleur allié. C'était Walter Zelaya, le directeur de Memo QC, a vécu 12 années de lutte difficile, un texte de Aline Van Compernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, que des avantages. Un texte de Pascal Filon, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH, est un outil précieux pour améliorer votre bien-être financier. Finautonome en parle beaucoup, car nous constatons au quotidien qu'il facilite vraiment l'accès à des aides qui améliorent le revenu disponible dans vos poches. En plus de l'avantage fiscal que procure le CIPH, l'admissibilité à ce crédit ouvre la porte à plusieurs autres mesures fédérales. Il permet également de faciliter l'admissibilité au crédit d'impôt québécois analogue au CIPH. D'ailleurs, Luc Godbout et son équipe de chercheurs viennent de rendre publique une analyse vraiment intéressante pour comprendre les impacts des mesures fiscales sur les revenus disponibles des personnes handicapées et d'identifier des pistes pour améliorer leur soutien. Par exemple, pour les personnes seules vivant avec des revenus faibles et travaillant à temps partiel ou recevant des prestations d'aide sociale, l'admissibilité au CIPH entraîne une hausse substantielle du revenu disponible. En effet, une personne à faible revenu travaillant avec un salaire annuel de 22 230 $ voit son revenu disponible passer de 21 884 $ à 24 497 $ grâce au CIPH. C'est donc une augmentation notable de 2613 $ dans les poches de la personne. Finautonome est là pour vous accompagner dans vos démarches pour obtenir le CIPH. Nous vous guidons pas à pas pour vous assurer un maximum de chances d'être admis à ce crédit d'impôt incontournable, ainsi que plusieurs autres opportunités financières spécifiques aux personnes en situation de handicap. Numéro de téléphone 1-833-866-7334. Courriel aide finautonome.org, finautonome.org. Actuellement, l'importance du CIPH est renforcée par l'annonce d'une nouvelle prestation du gouvernement fédéral, la prestation canadienne pour les personnes handicapées, PCPH. Il est urgent d'expliquer que l'admissibilité à la PCPH passe par le CIPH. Si vous n'avez pas encore demandé le CIPH, vous ne pourrez pas bénéficier de la PCPH dès juillet 2025. Vous pourriez vous priver de 2 400 $ par année si vous vivez sous le seuil de pauvreté. La prestation canadienne pour les personnes handicapées, PCPH, une opportunité à saisir, mais des défis sont à relever. C'est une excellente nouvelle. Le gouvernement fédéral va verser jusqu'à 2 400 $ par année aux personnes handicapées à faible revenu dès juillet 2025. Malheureusement, au Québec, les personnes qui ont recours au programme d'aide sociale pourraient voir cette aide réduite si nous n'agissons pas dès aujourd'hui. Pourquoi? Actuellement, les règles québécoises d'aide sociale incluent tous les revenus, y compris la PCPH, dans le calcul des prestations versées. C'est injuste et c'est contre l'esprit de la loi qui a permis la mise en place de cette prestation. Pour y remédier, le mécanisme est simple et connu. Il suffit de modifier la réglementation québécoise pour exclure la PCPH du calcul des prestations d'aide sociale. Plusieurs provinces et territoires ont déjà convenu de ne pas récupérer de somme équivalente à la PCPH. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Nunavut. À Terre-Neuve-et-Labrador, notamment, on a décidé de bonifier la nouvelle prestation en annonçant un montant de 400 $ par mois en sus de la PCPH. Nous devons nous assurer que le Québec suivra ces exemples. Que faire? Informez-vous. Finautonome offre des conférences gratuites pour tout comprendre sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées et sur la prestation canadienne pour personnes handicapées. Agissez. Demandez à votre député de changer cette règle et de protéger la PCPH. Partagez l'information. Faites connaître cette situation à vos proches. C'était le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Que des avantages! Un texte de Pascal Filon paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.